RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, magazine de l'étonnement culturel. Nous enregistrons cette émission mardi, au lendemain de la cérémonie des Molières, un des rares moments où le théâtre prend ses quartiers à la télévision. Une cérémonie avec son habituel dosage de paroles officielles et de propos contestataires, de remerciements et de déceptions, de colère parfois, hein. De minutes coupées au montage qu'on retrouve dans la presse et sur les réseaux sociaux au petit matin. Bref, rien de nouveau sous le soleil, mais ce n'est pas une raison pour bouder les planches. Je vous dis ça, et en même temps j'ai un peu honte, hein, puisque les trois coups ne résonneront pas, ou si peu, dans cette émission. Si quand même, hein, nous évoquerons le centenaire de la disparition de Sarah Bernhardt, grande dame du théâtre s'il en est. Mais sinon, nous parlerons beaucoup de cinéma, du cinéma français, avec Catherine Deneuve qui fait l'affiche du Festival de Cannes, mais aussi de cinéma asiatique avec de nouveaux films que l'on peut voir dans les salles actuellement. Et puis on écoutera bien évidemment de la bonne musique. Ah, aussi cette semaine, nous terminerons comme la semaine passée en donnant la parole à un artiste. Michael Prazan est écrivain et documentariste et son dernier livre revient sur l'histoire du goulag. C'est glaçant, il sera avec nous en fin d'émission. Mais tout de suite, je vous présente mes deux chroniqueurs qui sont bien là, en studio. Valérie Magnac, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes cinéphile et touche à tout culturel, hein, tout vous intéresse. Vous nous parlerez d'un film japonais sur le peintre Okuzai et d'une expo sur Sarah Bernhardt. François Huguenin, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Cinéphile et mélomane, vous nous parlerez d'un film coréen sur les dérives du monde du travail et du capitalisme à la coréenne. Et puis, vous nous présenterez une artiste complètement inconnue, Cavalier Montanari. Ça vaut le détour. Voilà, Effervescence est prêt, on peut commencer.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Tu ne m'aimes toujours pas,
hein? Je ne t'ai jamais aimé.
Moi non plus. Je pourrais être une très bonne mère, hein?
Non.
J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés.
Oh, Abel, il adore Elisabeth, point barre, les deux garçons.
Ouais, moi aussi, j'étais amoureuse de ta sœur. Peut-être j'ai aimé Yvan aussi. Qui était si laid quand il était petit. Moi aussi, j'étais très laide quand j'étais petit.
Toi? Non.
Ah, si.
Et moi?
Toi?
Quand je suis née.
Toi, bébé, je sais plus. J'ai aucun souvenir.
Voilà, discussion nocturne entre une mère et son fils, dialogue implacable entre Mathieu Amalric et Catherine Deneuve, un dialogue signé Arnaud Desplechin pour son film Un conte de Noël. Une Catherine Deneuve incarnant une mère des plus distantes, à la beauté glaciale, une mère qui fait du Deneuve, me direz-vous peut-être. Peut-être, mais l'actrice phare du cinéma français depuis des décennies est bien plus que cela. Il ne faudrait pas la réduire à une certaine froideur, elle qui a su se faire désirer par tant de réalisateurs passant sans sourciller du drame à la comédie la plus légère. Et quand on regarde sa filmographie, c'est une collection des plus grands cinéastes que l'on égrène. Alors Catherine Deneuve, icône du cinéma français, forcément c'est l'idée qui vient à l'esprit, une idée renforcée par le choix de l'affiche du Festival de Cannes cette année, une photo volée de celle qui n'est pas encore la reine Catherine, pour reprendre le titre d'un documentaire, photo volée en 1968 sur le tournage du film d'Alain Cavalier, La Chamade. Valérie Marniac, La Chamade, qu'est-ce que c'est que ce film ?
Oui, c'est pas le plus connu, Catherine Deneuve, c'est vrai, mais c'est, ben, c'était l'occasion de le revoir. Alors, il n'existe qu'en DVD, malheureusement. C'est un film, alors, qui a été tourné en 68, et qui était adapté d'un livre de Françoise Sagan, qui lui avait été écrit en 65, alors qui pouvait paraître à l'époque un peu décalé avec les événements de mai 68, parce que on est vraiment dans l'univers de Françoise Sagan, avec cette espèce de, d'ode à l'oisiveté, à l'insouciance, au plaisir, voilà. Et en même temps, c'était un film qui était assez transgressif, hein, parce qu'il abordait le thème de l'avortement, puisque, c'est un triangle amoureux entre où Catherine Deneuve est partagée entre Charles, qui est un riche et plus âgé homme de son entourage, et puis le jeune Antoine, et voilà. Et c'est un film qui a quand même d'Alain Cavalier, quand même, faut le dire, qui c'est un de ses derniers films de fiction. Il a dû en faire peut-être encore un ou deux après. Il a un peu changé de registre.
Alain Cavalier qui sort cette semaine,
exactement,
un film sur l'amitié,
qui est aussi dans l'actualité cinématographique, voilà, qui sort dans deux jours.
L'affiche est magnifique.
Oui.
Elle est superbe. une photo de plateau, une photo de tournage. C'est important l'affiche pour le Festival de Cannes ?
Ah bah c'est central et c'est d'autant plus central. Alors ça l'a pas été pendant très longtemps. Hein. Moi je me suis amusée à regarder les affiches du festival depuis sa création en 46. Ça fait en fait que une grosse dizaine d'années que sous l'impulsion de Thierry Frémaux, c'est sûr que le festival est incarné par une star en fait. Avant c'était une affiche classique promotionnelle de typographie, de d'illustration, de dessin un peu conceptuel et incarner tout le cinéma mondial. Ce que le festival veut incarner aujourd'hui, hein, le festival de Cannes, par une seule personne, c'est une gageure chaque année. Et donc, il faut trouver la photo qui soit à la fois représentative de tout le cinéma, ce que Deneuve peut faire. Alors, elle prend la suite de... Il y a eu, à l'affiche, il y a eu Mastroianni, il y a eu Marilyn Monroe, il y a eu Claudia Cardinale, voilà. Et... Catherine Deneuve, en plus, elle continue à jouer aujourd'hui, donc c'est pas si évident. Et il faut avoir cette double casquette, on peut dire, à la fois de star mondiale et du cinéma de cinéphilie, enfin vraiment du cinéma d'auteur, ce que Catherine Deneuve a été. Et elle a cette magie-là. Et juste aussi, cette photo de tournage, au-delà d'être un portrait, au départ, c'était des portraits, ça a commencé avec Juliette Binoche en 2010, qui était un portrait signé d'une photographe. Le fait de que ce soit une photo de tournage, c'est plus qu'une personne, c'est-à-dire c'est tout, c'est un lieu.
Le plateau de cinéma.
Là, c'est la plage de Pamplonne, une époque. Voilà, c'est tout ce que ça véhicule. Et donc, c'est très signifiant, oui.
François Huguenin, Catherine Deneuve, c'était une évidence ?
Ah oui, oui. Et d'ailleurs, là, quand on vient d'entendre cette scène qui était... on ne voyait pas, évidemment, les images. On entendait juste les voix. Je me suis dit, mais Amalric et Catherine Deneuve, c'est deux des plus grandes voix du cinéma français. On peut fermer les yeux, rien qu'en les entendant, il y a des émotions qui passent d'une manière inouïe. Et oui, Deneuve, c'est fou, elle nous crée des émotions incroyables, alors que elle est plutôt très 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 froide. Mais voilà, la magie de cette immense actrice.
Et c'est quoi l'histoire de Catherine Deneuve avec le Festival de Cannes ? Est-ce qu'un jour elle pourrait être présidente du jury ?
Alors c'est une longue histoire hein, parce que quasiment dès son premier film qui était Les Parapluies de Cherbourg, le film a été Palme d'Or, mais elle n'a jamais reçu aucun prix à Cannes. Et du coup, il y a eu une palme d'honneur remise comme
ça sent toujours
rattraper.
La leçon de rattrapage.
Voilà, exactement. Voilà. C'était en 2015, je crois. Alors ceci étant, on lui a proposé, enfin Thierry Frémaux lui a proposé une fois d'être présidente du jury, ce qu'elle a refusé. Donc
pourquoi
elle a été vice-présidente. Voilà, elle trouvait que c'était à la fois. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas beaucoup aimé l'exercice.
Elle était jury, mais pas présidente.
Exactement. Elle était dans le jury. C'était avec Clint Eastwood, je crois, qui était président du jury. Et elle a trouvé l'exercice assez frustrant parce que finalement des discussions qui pour elle n'allaient pas assez loin et en même temps une pression énorme et donc je crois qu'elle l'apprécie pas plus que ça l'exercice.
Allez, on écoute un autre extrait.
C'est elle ?
Ouais, c'était elle. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle.
Elle me fait l'effet d'un croissant chaud.
C'était surtout que je voulais coucher avec elle.
Mais je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela ? Je n'ai pas le droit d'aimer ni d'être aimée.
Tu as fait de moi ta prisonnière. Mais regarde-moi, regarde la tête que j'ai.
Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance.
Tu ne sortiras pas d'ici, je casse toute la prison !
C'est pas un extrait, c'est la bande-annonce du dernier métro. François Huguenin, quelle actrice c'est Catherine Deneuve ? Parce qu'on dit toujours une beauté froide, mais c'est plus que ça.
En fait, je trouve que c'est très très difficile de répondre à cette question parce que, et c'est peut-être en cela que c'est une immense actrice, c'est que il me semble qu'elle s'est volontiers pliée à la création artistique des réalisateurs avec lesquels elle a joué. Et qu'au fond, c'est toujours la même, bien sûr, mais...
Elle est totalement plastique, c'est ça ?
Oui, mais au bon sens du mot. C'est-à-dire que, voilà, avec Truffaut, c'est une actrice truffaldienne. Avec Desplechin, elle est totalement desplechinesque. mais avec Lars von Trier, elle fait le job exactement comme Lars von Trier, je pense, l'a voulu. Et en même temps, elle reste ce qu'elle est. C'est-à-dire que c'est pas une... Enfin, c'est pas une actrice que je pense un réalisateur prend comme ça sans ménagement. Ça doit être même impressionnant, surtout que à un certain moment, je pense que quand Desplechin a commencé à tourner avec elle, qu'elle était déjà une star du cinéma, il a dû être un petit peu impressionné. Mais bon, non, je trouve que voilà, moi, je trouve que c'est magique. Et alors, est-ce que c'est... Enfin, je mélange peut-être deux plans, mais moi, je ne peux jamais être totalement sans penser que Catherine Deneuve, au départ, était associée à sa sœur, Françoise d'Orléac, et que à chaque fois qu'il y a un film majeur avec Deneuve, à chaque fois qu'elle est éblouissante en tant qu'actrice, je ne peux jamais m'empêcher de me dire, mais et sa sœur, qu'est-ce qu'elle aurait fait comme carrière ?
Est-ce qu'il peut y avoir deux sœurs Deneuve ?
Oui, mais il y a comme toujours le poids de cette absence qui est aux côtés.
Peut-être qu'elle a joué pour deux finalement.
Peut-être.
Elles ont commencé en fait en 64 quand les Parents de Cherbourg étaient à Cannes. Il y avait La Peau Douce de Truffaut avec Françoise d'Orléac. On sait Françoise d'Orléac était beaucoup plus connue que Catherine Deneuve au départ. Elle dit que c'est sa rencontre avec Demi qui l'a révélée au cinéma. Et après effectivement elle a eu toute cette variété. Moi je dirais plutôt. Enfin je pense pas qu'elle soit une beauté froide ou qu'elle soit. Je pense que c'est quelqu'un de pudique effectivement dont elle se livre beaucoup très peu sur sa vie privée. Mais si on regarde la variété des films qu'elle a tournés, on sait quand même toujours que ça porte un peu du personnage dans chacun des rôles. C'est une femme extrêmement complète, extrêmement paradoxale, enfin extrêmement. Elle passe, vous l'avez dit Stéphanie, de la comédie au drame. Par rapport, moi je la mets sur le même plan dans les stars françaises avec Isabelle Huppert. C'est les deux, je pense, qui sont vraiment au-dessus du lot. Autant Isabelle Huppert est sur des rôles assez équivalents, enfin assez proches les uns des autres, autant elle est dans, moi je l'aime beaucoup dans la comédie notamment, je trouve que et elle aime casser les codes, elle a ce côté-là, c'est vraiment quelqu'un qui est libre, indépendant, qui joue de sa propre image. Elle est en ce moment à l'affiche dans une toute petite comédie, mais qui est vraiment assez jubilatoire, qui s'appelle Habib, la grande aventure, sur l'histoire d'un acteur musulman qui, pour commencer au théâtre, a comme premier rôle le rôle de Saint François d'Assise. Et voilà, donc il y a toute une, c'est un peu burlesque, un peu comme ça. Et
Catherine Deneuve a dit oui.
Et Catherine Deneuve a dit oui, et elle joue un tout petit rôle où effectivement il va rencontrer Catherine Deneuve et il va faire un rôle de figurant avec Catherine Deneuve, et du coup tout son entourage est complètement excité alors qu'il a juste deux mots à dire. Donc elle est comme ça, elle a joué aussi, elle fait démarrer des nouveaux réalisateurs. Emmanuel Berco, elle a joué trois films avec elle. Bon, maintenant c'est une grande, grande réalisatrice, mais quand elle a commencé avec Elle s'en va, La tête haute, elle était vraiment, c'est une nouvelle réalisatrice, et elle ose des petits films. Moi je l'aime beaucoup dans un film qui s'appelle La dernière folie de Claire Darling. C'est une réalisatrice qui s'appelle Julie Bertuccelli, non mais qui est vraiment une actrice de documentaire vraiment, vraiment intéressante, où elle fait une performance remarquable. Quoi qu'elle joue, elle est
C'est pas vraiment une actrice populaire.
Moi, je dirais que si, quand même. Elle a fait un des grands rôles populaires. Enfin, Indochine, Force Hagan, je sais pas, plein.
Mais c'est pas Simone Signoret à l'époque. Il y a cette réserve.
Il y a une distance quand même.
Oui, c'est ça.
C'est pas Alain Delon, quoi.
Mais un peu Alain Delon féminin.
Un peu Alain Delon féminin.
Non, mais chacun, voilà. Voit...
Bon, si on regardait, parce qu'elle a une filmographie, c'est un film par an, pratiquement, si ce n'est deux. Pour vous, qu'est-ce que vous retiendrez comme film de sa filmographie ? Alors, vous en avez cité déjà beaucoup, Valérie, mais François ?
Alors, si quelques-uns que je voudrais citer, par ordre de chronologique, parce que ça donne aussi des repères à ceux qui nous écoutent. Le premier film de Catherine Deneuve, avec Catherine Deneuve, qui moi m'a scotché, en plus je l'ai vu très jeune, au moment des émois adolescents, c'est Belle de jour de Buñuel. Et ce personnage de cette femme, elle est absolument splendide dans ce film, elle a une beauté incroyable. Ce personnage de cette femme qui va, qui est complètement mangée par ses fantasmes, qui va se prostituer et qui reste d'une sorte de pureté virginale du début à la fin du film. Buñuel l'a évidemment voulu ainsi. Je crois que je me souviens de l'émoi que ça a provoqué dans le jeune garçon que j'étais. J'avais peut-être 14 ans ou 15 ans quand j'ai vu ce film. Et je garde les images de cette première vision. C'est quand même très étrange. Après, dans les demi, Alors moi, je suis moins parapluie de Cherbourg, etc. Mais j'aime énormément Podane.
Ah.
Voilà. Et Podane, quand elle chante, enfin, c'est un.
Mais c'est pas elle qui chante.
Non.
Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est un enchantement.
Pour ça, j'aurais pas pris d'extra.
Mais oui, mais c'est un enchantement parce que cette musique est magnifique et que je la trouve très très très. Voilà, je la trouve très belle. Et c'est un demi que j'aime beaucoup. Après, bon, je citerai le dernier métro parce que. On a beau dire tout ce qu'on peut dire, certains ont dit finalement Truffaut a fait de la qualité française, ce n'est pas vrai, c'est un immense film et je pense que c'est un grand grand film de Truffaut et que Catherine Deneuve y est vraiment pas pour rien. Je l'aime beaucoup dans Dancer in the Dark avec Björk de Lars von Trier, parce que là elle a aussi un rôle incroyable et puis ce duo avec Björk, elle se met en danger dans ce film et je trouve que c'est très beau. Et puis donc Despéchins, moi bon, il y a celui qu'on a entendu, mais il y a Rois et Reines où elle joue ce personnage de psychiatre qui est à la fois fascinant, envoûtant, terrifiant, je sais pas comment dire, et voilà, c'est ce que je retiendrai d'elle dans toute sa filmographie. J'aime moins peut-être la dernière décennie, enfin je suis un petit peu parce que Roi et Reine c'est 2004. Depuis il y a peut-être moins de films qui m'ont profondément marqué, mais bon voilà.
Valérie Mériac, vous, vos grands films avec Catherine Deneuve?
Alors moi c'est Demi en premier.
Demi en premier.
Et plutôt avec Mademoiselle de Rochefort.
Oui, mais je comprends. Voilà. Mes filles me disent la même chose.
Voilà. Et après dans cette veine-là, d'ailleurs, elle a fait énormément de comédies musicales parce que vous avez cité Dancer in the Dark, mais il y a aussi Christophe Honoré. Et puis elle a beaucoup joué avec sa fille Chiara Mastroianni dans notamment Les Bien-aimés, etc. Et puis ouais, aussi toutes ces comédies un peu peut-être où elle incarne quelqu'un d'un peu plus léger, frivole, insouciant, mais elle est tellement à la fois belle et drôle, et ça va. Je mets dans le même sac les comédies de Rapneau, Le Sauvage, La Vie de Château, jusqu'à plus récemment celle d'Ozon, 8 femmes, potiches, où c'est pas exactement la même sensibilité, mais elle montre le même talent de elle joue aussi dans le film Valérie Le Mercier, Palais Royal, moi je la trouve drôle, je trouve que elle est très drôle. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez éclectique.
Donc quand vous avez découvert l'affiche de la prochaine édition du Festival de Cannes, vous n'avez pas été surpris?
Oh bah non.
Pour boucler la boucle.
Oh bah non.
On a été heureux.
C'est
célébration du cinéma français.
C'est fantastique.
Aussi,
tout à fait.
Pour terminer cette page consacrée à Catherine Deneuve, on a beaucoup dit qu'elle aimait chanter. Hein. On pense au film de Christophe Honoré, de François Ozon, ou bien sûr In the Dark de Lars von Trier. Mais il n'y a pas que les réalisateurs. Et Catherine Deneuve a aussi cédé aux volutes de Serge Gainsbourg.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Gitane, sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu.
Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve, Dieu est un fumeur de Havane dans Effervescence.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Après cet hommage à Catherine Deneuve, nous ouvrons maintenant une page consacrée au cinéma asiatique. Peut-être un mot sur le cinéma asiatique. On va parler d'un film coréen, d'un film japonais. Donc on imagine bien que ce sont deux entités complètement différentes. Mais vu de France, le cinéma asiatique, ça fonctionne bien, ça nous parle. François Huguenin.
Bah, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de cinéphiles qui s'intéressent au cinéma asiatique et qu'il y a même des gens qui ne sont pas des cinéphiles extrêmement pointus, mais qui vont assez régulièrement voir un certain nombre de films japonais ou des cinéastes comme Kore-eda, par exemple, ont beaucoup fait, je pense, pour la démocratisation entre guillemets du cinéma asiatique en France. Voilà, c'est pas les Mizoguchi hardcore qui sont des chefs-d'œuvre, mais qui sont peut-être un peu plus difficiles à voir. Et le cinéma asiatique contemporain, je trouve, me parle beaucoup, et je trouve reste asiatique, mais est très proche de notre sensibilité.
Valérie Mariac.
Oui, et puis on peut aussi rajouter toute l'animation japonaise, hein, avec Miyazaki au départ, qui a pris le relais des Disney, finalement. Enfin, les nouvelles générations d'enfants, je pense, regardent plus Miyazaki, enfin, au moins autant que Disney. Et c'est vrai qu'il y a régulièrement des surprises en salle avec des nombres d'entrées. Là, le dernier en date, c'est Suzume. C'est un peu un espèce de manga pour ados, mais qui est intéressant, enfin, qui est vraiment toujours à double lecture, effectivement, qui parle toujours, qui touche toujours beaucoup à des thématiques un peu autour de la nature, de la spiritualité, donc assez universel finalement.
Alors François Guenin, avec vous, on part en Corée pour un film coup de poing qui dénonce avec beaucoup de courage les conditions de travail dans une société plutôt sclérosée. Ça s'appelle About Kim Soe. Alors qui est Kim Soe?
C'est une jeune lycéenne qui termine son temps d'études au lycée par un stage en entreprise, comme ça se fait en Corée. Enfin, j'ai l'air de dire ça comme si je le savais depuis toute éternité, mais je l'ai appris en regardant ce film. Et en fait, elle va travailler dans un centre d'appel téléphonique pour un opérateur Internet. Donc le truc déversoir de toutes les frustrations des gens qui ont leur internet
en
panne.
Quand la boxe ne marche pas, voilà.
On sait que c'est pas les métiers les plus simples aujourd'hui. Et petit à petit, elle va être entraînée dans une sorte de maltraitance au travail dans une structure terrible où l'esprit de compétition, le culte du zéro défaut est absolument monstrueux, et où toute la hiérarchie, ce qui est intéressant, de l'entreprise semble gouvernée par la peur de faire une erreur, parce que cette erreur pourrait faire en sorte qu'on serait moins bon que l'équipe concurrente et que donc on serait remis en question dans son job et dans sa capacité à faire du profit.
François, on écoute un extrait de la bande-annonce et puis ensuite vous nous expliquerez comment le film fonctionne et pourquoi vous avez aimé. About Kim Soe, c'est un thriller? Ça fonctionne comme un film à suspense? Et là, François se tourne vers...
Non,
Valérie.
Mais je
c'est
non,
un drame.
Oui, c'est un drame. Il y a un élément narratif que les critiques en ligne ont eu l'intelligence de pas mettre et que je ne dirai pas ici pour que ceux qui iront voir le film n'aient pas leur plaisir éventré.
Divulgaché,
comme on dit. Ça fonctionne comme une... Il y a deux temps dans le film. Il y a la vie de cette jeune fille dans l'entreprise et il y a ensuite une enquête policière. Et ce qui est très très beau, c'est qu'il y a un effet de miroir entre cette jeune lycéenne qui travaille dans cette entreprise où elle est déshumanisée, vraiment, profondément, et une femme policière qui est la seule dans son service à se dire qu'il y a peut-être un problème dans la manière de traiter les personnes. Et c'est au fond, c'est un grand film sur la résistance féminine. parce que les hommes sont pas extrêmement à leur avantage dans ce film. Alors il y a aussi un personnage de femme manager qui ne l'est pas du tout. Hein, donc le film est pas du tout binaire, manichéen, de manière idiote. Loin de là, il est très fin. Mais c'est vrai qu'il y a il y a ce personnage qui est pour moi en miroir de cette lycéenne, de cette enquêtrice. Qui veut aller jusqu'au bout pour faire la vérité, pour faire la vérité sur une personne et pour faire la vérité sur un système. Mais franchement, c'est glaçant. Et en même temps, c'est glaçant dans le constat, mais c'est habité par des émotions. L'actrice, enfin les actrices sont absolument exceptionnelles. Et on peut dire que là, pour le coup, on a des actrices qui expriment vraiment leurs émotions à l'écran, que ce soit la jeune lycéenne ou que ce soit l'inspectrice. Il y a une sorte de violence des émotions qui ressort, y compris dans le monde professionnel. Et on se dit, ce sont les moments de respiration, en fait. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un film très, très, très marquant. Depuis le début de l'année, c'est peut-être celui qui m'a le plus bouleversé.
Ça s'appelle About Kim
Soe. Kim Soe de Julie Young.
Vous confirmez, Valérie? C'est un des films importants.
Oui, oui. Et puis, il faut savoir, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors, c'est toujours un peu galvaudé de dire ça, mais ce fait divers, on va dire, a quand même pas mal choqué et bouleversé la Corée. Et c'est ce qui a justifié, entre autres, le film.
Si je vous dis Okuzai, il y a de fortes chances que vous me répondiez La Vague. Et effectivement, de ce peintre japonais du XVIIIe siècle, nous ne connaissons pour la plupart que cette petite estampe maritime. Petite estampe qui est même devenue aujourd'hui un émoticône, un graal suprême dans notre société de la notoriété. Bref, nous ne savons rien d'Okuzai. Et Valérie de Marignac, avec vous, on continue d'évoquer ce cinéma asiatique, direction cette fois le Japon, avec un biopic sur le célèbre peintre.
Voilà, donc moi ça m'a donné envie d'aller découvrir un peu plus de la vie du peintre, dont on ne sait pas grand-chose effectivement. Même je ne suis même pas sûre qu'effectivement, comme vous le dites, il est tellement associé aujourd'hui à ce qu'on presque à la pop culture, hein, parce qu'on le voit un peu partout décliné sur des mugs, des t-shirts, des posters, voilà. Qu'effectivement on en oublie que c'était quand même une estampe traditionnelle peinte. Alors il l'a peinte assez tard, hein, 70 ans, donc début 19e, mais voilà dans le Japon de la période du shogunat, Edo, etc. Alors, le biopic, le film, c'est un biopic assez classique, un peu académique, mais quand même avec une réalisation intéressante et surtout quelques parties prises du réalisateur qui nous prennent un petit peu qui retiennent notre attention. Alors, ce peintre, en fait, de Okuzai, le parti pris du réalisateur, c'est de dire qu'il le filme d'abord de ses 20 ans jusqu'à la fin de sa vie, hein, donc il a peint. Il s'est jamais arrêté de peindre à partir de 20 ans. Le film est découpé en 4 parties, 4 chapitres qui correspondent à 4 saisons. Et on commence, le film commence par une première scène assez violente de soldats qui débarquent dans un atelier d'un libraire pour détruire toutes les estampes qui sont là. Donc c'est vraiment la censure de l'époque qui sévit à l'époque. Donc à l'époque, un Tokyo s'appelait Edo et on était encore sous un régime effectivement très, très autocratique. Et on découvre donc le jeune Okuzai qui est un plutôt assez impétueux, assez indépendant, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui finit donc par justement quitter tout ce système et fuir cette censure pour aller peindre ce qu'il a envie de peindre. Et il part comme ça voyager à travers le Japon et il va commencer justement à peindre des paysages, ce qui était à l'époque n'était pas fait sous forme d'estampes. Et on voit petit à petit toute cette quête un peu artistique, presque spirituelle qui se construit chez le peintre. Alors La Vague, vous voyez à quoi elle ressemble.
Oui.
Bon, d'accord, donc tout le monde voit. Donc ça fait partie d'une série de 36 vues, je crois, sur le Mont Fuji. Et donc on le voit un peu effectivement dans ces paysages-là. Donc le réalisateur fait des parallèles évidemment entre ce qu'il peint et ce qu'il vit. Et autre intérêt du film, c'est la manière de filmer, le geste artistique est absolument somptueuse. Vraiment, il a demandé à une école de, d'art graphique actuel de reconstituer le dessin d'Hokusai, et il y a des gros plans très sensuels, très sensibles sur ce trait de pinceau fin, sur ces feuilles très fines. C'était de la sérigraphie, hein. Donc après il y a la gravure du bois, l'impression avec l'encre, tout ça est vraiment vraiment très beau. On sait qu'Hokusai était un des premiers à utiliser le bleu de Prusse, et donc qui marque cette estampe, et ça donne esthétiquement, ça donne des très belles scènes.
On se plonge dans la bande annonce, on comprend pas le japonais, hein, c'est comme le coréen, mais comme ça on est dans le film.
Shundo desu yo. Hatsukawa Shundo.
Hatsukawa.
Eh. Ude wa waruka nen desu. Tada kakitaku ne mon wa kakanai.
Tebe no e wa me no mae ni aru mono nisete kaita dake no e da.
Tokku ni hamon sare chimatte. Hime ni ya ani desu yo nagutte chimatta sou de.
Ore ga ichi kara sodatete yaru yo.
Voilà, et pendant que vous entendiez la bande-annonce, nous discutions entre nous de la différence entre la langue coréenne et la langue japonaise. Un dernier mot sur Hokusai, Valérie ?
C'est quand même un beau film, et surtout, il rend vraiment hommage à ce travailleur acharné qui a quand même peint plus de 30 000 dessins, qui n'a jamais arrêté, qui est mort à 89 ans, et qui était un perfectionniste, qui cherchait la perfection de la ligne, et qui a même déclaré, écrit une phrase, il dit « Quand j'aurai 100 ans, je tracerai une ligne » et ce sera la vie. Voilà, il pensait vraiment que seul l'art pouvait changer le monde. Alors rien que pour ça, il faut aller voir
le film. Hokusai. On n'a pas donné le nom du réalisateur ou de la réalisatrice.
Alors Hajime Hashimoto.
Vous vous rappelez du tube Makeba de Jane, c'était en 2018. Et bien après 5 ans de silence, l'artiste toulousaine née Jeanne Galis revient avec un nouvel album. The Fool est sorti vendredi dernier. Forcément, l'événement était attendu. Résultat à la première écoute, on est moins dans la world electro-pop music, hein, qui avait fait la patte et les tubes de Jane. C'est un peu moins original, mais toujours de qualité. Je vous propose d'écouter un extrait de The Fool, le titre éponyme.
Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better.
I'm dancing on the moon, the moon.
extrait du dernier album de Jane sur RCF.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et on célèbre cette année le centenaire de la mort de Sarah Bernhardt. C'était le 23 mars 1923, l'occasion à Paris pour le musée du Petit Palais d'une exposition pour faire revivre celle qui inventa le star system. Je crois même, Valérie, mais vous allez me confirmer que c'est pour elle qu'on créa l'expression monstre sacré.
Oui, c'est Cocteau qui a c'est utilisé Cocteau. Cette expression qui n'est pas forcément... voilà.
La plus heureuse. On en parlait la semaine dernière à propos de Picasso. Effectivement, tout le monde ne la reprend pas. Parlez-nous de cette exposition.
Ah bah déjà, le lieu, alors donc c'est au Petit Palais, et c'est vrai que le lieu se prête parfaitement à cette exposition, puisque le bâtiment est contemporain de la star, hein. Le Petit Palais, on sait que c'est construit à la suite d'un concours d'architecture pour l'exposition universelle de 1900. Donc là, on arrive, on est vraiment chez elle, hein. Donc tout a été reconstitué un peu à la façon son atelier, de son hôtel particulier luxueux de la plaine Monceau. On y retrouve ses objets fétiches, les œuvres d'art de ses amis, ses propres œuvres d'art, parce qu'en plus d'être actrice, elle est peintre, sculptrice assez douée d'ailleurs. Et puis on est accueilli par le portrait le plus célèbre de Sarah Bernhardt, qui d'ailleurs fait partie des collections permanentes, hein, donc on connaît bien, qui est une immense œuvre de 2,50 m par 2 m, où elle est allongée dans son canapé,
ouais.
Voilà, dans une robe un peu...
Grande sensualité.
Voilà, voluptueuse, parce qu'elle était très très filiforme, hein, elle avait une ligne très 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 fine et complètement à rebours des canons de beauté de l'époque, hein, où les femmes on les aimait plus plantureuses. Et puis elle est avec un lévrier à ses pieds, ça fait comme ça la star dans toute sa splendeur. Alors le reste de l'exposition reprend un peu le parcours de Sarah Bernhardt, mais surtout dresse le portrait d'une femme hors du commun. Alors on le sait un peu, mais c'est vrai que moi Sarah Bernhardt au départ pour moi c'est évidemment la grande tragédienne, mais avec le côté un peu démodé de la tragédienne de cette époque, et notamment les enregistrements qu'on entend, hein, dans l'exposition. Alors c'est peut-être lié aussi au support technique, c'est des enregistrements Edison du 19e siècle, la voix est un peu chevrotante, nasillarde, il y a une question de restitution, mais elle était effectivement comme ça un peu grandiloquente, et en même temps c'est parce qu'à l'époque déjà il fallait remplir les théâtres, hein, mais au-delà de cette grande tragédienne qui était connue pour savoir mourir sur scène, hein, des longues agonies de 10 minutes. Alors on voit toutes les grandes pièces qui ont marqué son répertoire, hein, la Dame aux Camélias, Phèdre, etc. Mais elle était très iconoclaste, très transgressive. Elle était assez rebelle. Elle était
liberté de ton.
Voilà. Alors elle était née fille d'une courtisane juive sans père. Et donc au départ, elle avait
tout n'était pas gagné au début.
Voilà. Et toute la avec une enfance assez triste et solitaire. Hein, et elle a commencé à s'épanouir chez des sœurs augustines à Versailles, où elle a déjà commencé à être éduquée, enfin apprendre pas mal de choses. Et puis elle a même voulu devenir religieuse, qu'elle est un peu exaltée, puis après ça lui a passé. Donc elle a une vie ensuite sentimentale assez riche, mais assez vite elle était autonome, c'est-à-dire que financièrement, ce qui à l'époque pour une femme aussi, parce qu'elle avait un tel succès, elle faisait des tournées dans le monde entier, c'est impressionnant. Elle a couvert les 5 continents. Elle avait un pullman, un train pullman spécialement aménagé pour elle, voilà. Et en même temps, c'était une femme qui était très sensible aux injustices sociales, qui s'est beaucoup engagée, elle était patriote. Elle a, pendant la guerre de 1870, elle a transformé son théâtre de l'Odéon en hôpital militaire. Elle s'est engagée
pour... On vous sent sous le charme.
Pour Dreyfus. Ah oui, non, c'est vrai que j'avais une image complètement démodée de Sarah Bernhardt et caricaturale. Et j'ai trouvé que c'était une femme. Et effectivement, j'ai découvert une femme assez, assez exceptionnelle. Ouais.
Donc ça se passe au musée du Petit Palais. Voilà. Et je crois qu'on a jusqu'au mois d'août pour aller découvrir écouter, désolé qu'on n'ait pas pu vous passer des extraits, l'œuvre de Sarah Bernhardt. Les auditeurs qui sont des familiers de cette émission le savent, hein, François Huguenin, vous n'avez pas votre pareil pour nous dénicher des pépites injustement méconnues. Mais celle-ci, c'est une évidence, hein, devrait facilement trouver son public. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Cavalier Montanari. Quelques mots juste avant d'écouter un premier extrait.
Oui, juste, alors très très inconnue, mais elle a participé...
Je crois que sur Spotify, il y a moins de 200 écoutes.
Hein. Oui,
ça va changer.
Ça a changé à partir de cette émission. Il y a 2 ans, enfin 3 ans maintenant, en 2020, elle a participé à un projet incroyable d'un musicien belge qui s'appelle Cabane. Et j'ai découvert en fait qu'elle avait écrit beaucoup des textes de cet album qui pour moi était le plus bel album de l'année 2020. Et donc voilà. Et là, elle se lance. C'est une Française qui s'appelle Caroline Gabart, de son nom. et elle se lance pour son premier EP.
C'est un petit album.
Un petit album, 7 chansons.
Promesse d'album, on va dire.
Mais franchement, 7 chansons qui sont des bijoux.
Alors elle se promène en bord de mer. On va écouter...
Oui, on se promène de la Bretagne à la Belgique.
Alors on écoute Finistère.
Tonight, close your eyes. The night is young and brave. Light comes to enlighten the secrets and all the pain. What are we doing now? What can we do? You leave this all behind, and you leave us too. And you leave us too. This time, open your eyes. The light is warm and aged. A sign just to remember what you did and what you gave. And with it down in silent time, whispering all you contain, we are suddenly lost.
C'est magnifique.
Il suffit d'une voix et de quelques accords de piano et on a une chanson absolument bouleversante. C'est une épure absolument parfaite, c'est sur le fil. On sent qu'il y a une fragilité et en même temps une vraie présence. Moi, je suis absolument admiratif.
Alors, elle chante en anglais, mais comme
mais
tous
ceux
de la jeune génération, elle passe aisément de l'un à l'autre.
Elle passe aisément d'une langue à l'autre. Et il y a une très belle chanson en français que j'aimerais qu'on écoute, qui s'appelle « Les Rochers ». Voilà. Et Valérie va être contente parce qu'elle chante en français.
On écoute « Les Rochers ».
Te souviens-tu ? Il n'y a pas si longtemps, la mer, le ciel, chacun de son côté, regarde loin devant, la mer, le ciel, assis sur ce rocher. Soir d'été, soustrait du monde, regardez défiler les saisons, le ciel, ce reflet dans tes yeux, mon regard dans le bleu, ressens-tu ce vent sur nos joues? Qu'est-il arrivé? Le temps s'est écoulé, la terre, le vent, la terre, le vent.
Retenez bien son nom, elle s'appelle Cavalier Montanari. Il y a donc un EP qui est sorti.
Sea Songs, voilà.
Sea Songs.
Chansons de mer.
Voilà, pour se promener en bord de mer, ça a écouté au casque.
Voilà, et vous voyez, hein, la première piano voix, la guitare sèche voix, ça suffit.
Voilà. ça s'écoute un peu partout sur les plateformes, si
sur
on veut.
Sur toutes les plateformes, absolument.
Et on peut la voir jouer, chanter
J'espère, je n'attends que ça.
Bon, Cavalier Montanari, et c'était sur RCF dans Effervescence, grâce à François Huguenin. Merci François.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Et pour terminer cette émission effervescente, je vous propose d'accueillir l'écrivain et documentariste Michael Prazan. Michael Prazan, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de partager ce moment avec nous. Je crois que nous vous interrompons dans le montage de votre prochain film.
C'est pas faux.
C'est pas faux. Nous vous recevons dans Effervescence pour que vous nous parliez de Varlam, votre dernier livre publié chez Rivage. Varlam, c'est une sorte de carnet de voyage en Sibérie ou carnet de documentaire pour raconter le tournage de votre enquête sur le goulag, un récit dont le fil rouge est tiré par un chat, un petit chat trouvé à moitié mort, abandonné au milieu de cette région pourtant des plus hostiles. Un chat à qui vous avez donné le nom de Varlam. Alors Varlam comme Varlam Shalamov, rescapé des camps et auteur des récits de la Colima. Vous nous racontez comment vous avez trouvé ce chat ?
Oui, alors effectivement, c'est un... Nous avons fait ce qui s'appelle là-bas la route des ossements, c'est-à-dire c'est une, peut-être la plus longue route du monde, elle fait 2000 kilomètres, elle part de Yakoutsk pour finir à Magadan, qui est la ville, la capitale des Zèques, comme on l'appelle. Les Zèques, ce sont les prisonniers du Goulag. Et nous avons traversé donc cette région qui cumule les records. C'est la plus grande région du plus grand pays du monde, c'est l'endroit le plus froid du monde et certainement le moins peuplé aussi, pour cette même raison d'ailleurs. C'est une région magnifique mais mortelle. Rien ne survit par moins 50, moins 70, il y a des pics, on y était au mois de février. Varlam Shalamov, qui est le plus grand écrivain rescapé des camps et qui a passé le reste de sa vie, après avoir passé 17 ans d'enfer dans cette région, à écrire les récits de la Colima. Nous étions sur ses traces, et le premier jour, au départ de Yakoutsk, que nous avons dû quitter vers 5 heures du matin, la nuit tombe 15h30, 16h, donc on était en fin de journée, peu avant le coucher du soleil, et nous avons trouvé ce petit animal, dont je pensais qu'il était un bébé lynx, car trouver un chat au milieu de nulle part dans cet endroit était plus qu'inattendu, invraisemblable. 10 minutes après, il serait mort. Il venait de perdre le bout de ses oreilles qui avait gelé, qui était tombé à cause du gel. Donc il était tout ensanglanté, en très mauvais état. Nous avons arrêté notre convoi de 2 voitures, 4x4, pour lui venir en aide. Et voilà, et cette relation très particulière était née. Elle a duré pendant un mois, le mois qui a duré la traversée de cette région le long de cette route jusqu'à Magadan. Et puis, la question pour moi, je m'étais attaché à lui et lui à moi de l'abandonner une seconde fois parce qu'il n'est pas arrivé par ses propres moyens. Je ne peux pas l'imaginer à l'endroit où nous l'avons trouvé. Et donc, tout le monde y a mis du sien pour que je puisse le ramener à Paris.
Mickaël Prazan, l'histoire du goulag, l'histoire que vous racontez est une histoire glaçante. Vous aviez besoin d'un petit chat pour adoucir ce récit ?
Eh bien, écoutez, il était dedans, voilà. Il faisait partie du voyage. Je ne l'ai pas choisi, pas sûr qu'il m'ait choisi non plus. En tout cas, voilà, c'est la phrase de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et puis, spontanément, lorsque nous l'avons recueilli, il fallait lui donner un nom. Et comme nous étions sur les traces de Varlam Shalamov, hein, c'est vraiment notre voyage a été ponctué par les lieux qui ont abrité, qui ont vu souffrir Shalamov. Il était au cœur de nos esprits, de notre voyage, de cette route, de cette région. Et bien spontanément, on l'a nommé Varlam. Donc il y a eu, à partir de là, une sorte de fusion, d'une certaine manière, entre l'histoire de ce grand écrivain rescapé du goulag et l'histoire de ce petit chat, lui aussi rescapé. Et d'ailleurs, très étrangement, des liens se sont créés au fil de l'écriture quand j'ai fait ce récit, entre la figure du Zec et puis la figure de ce petit chat rescapé. Donc je ne sais pas vraiment si j'avais besoin de ça, mais en tout cas, au fil du récit, je me suis rendu compte quand même qu'il permettait de sortir de l'horreur, de sortir de ce froid glacial et de donner aussi, curieusement, par l'entremise de ce petit chat, de l'humanité au récit que je dressais, et parfois même aussi un peu d'humour, ce qui peut sembler inattendu vu le contexte.
Vous l'avez appelé Varlam, vous l'avez dit en hommage à Varlam Shalamov. Vous pouvez nous dire pour vous quelle est la leçon de Shalamov ?
C'est une leçon multiple, déjà une leçon littéraire. C'est un immense écrivain, trop méconnu, et puis l'objectif de ce livre, c'était aussi d'en faire d'une certaine manière revivre la mémoire et l'héritage qui est considérable, et notamment en Russie. C'est vrai qu'en France, on connaît beaucoup Solzhenitsyn, beaucoup plus méconnu en Russie. Shalamov est une star. Il y a une disproportion entre les deux héritages et puis aussi une injustice qu'il fallait réparer. Je veux dire, Shalamov a vécu vraiment 17 ans d'enfer. Il a failli mourir plusieurs fois. Il en a réchappé à chaque fois par miracle, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans ce genre de situation. Solzhenitsyn, c'est pas la même histoire. L'essentiel du camp, il l'a fait dans une charanchka, c'est-à-dire des laboratoires prison qui accueillaient des scientifiques qui étaient choyés au chaud à la sortie de Moscou. Donc c'est pas du tout, à mon sens, la même envergure littéraire et pas du tout la même expérience vécue. Et de ce point de vue-là, évidemment, Chalamov a une importance considérable du point de vue testimonial, du point de vue de la description et de l'œil acéré avec lequel il traduit les relations complexes qui se nouent dans le camp entre les différentes catégories de prisonniers, entre les droits communs, les politiques, etc. Il y a toute une hiérarchie qui se met en place, et puis aussi le fonctionnement du camp pris en charge par cette gigantesque société créée par Staline qui s'appelle Dalstroy et qui avait pour fonction d'acheminer les ex, c'est-à-dire les prisonniers dans cette région.
Parce que ce qu'on découvre à la lecture de votre livre, Michael Prasant, je suis désolée, je vous interromps, mais on n'a que une dizaine de minutes. Ce qu'on découvre, c'est qu'à l'origine du goulag, il y a une motivation économique. On a besoin de main-d'œuvre pour aller extraire les richesses du sous-sol de cette région.
Alors, c'est ça où je voulais en venir. On croit souvent que le goulag n'est qu'une espèce de sanction, un lieu de relégation, de privation, de torture. Non. À l'origine, et en fait, sa vocation, c'est une expansion coloniale pour exploiter des richesses inexploitables, parce que les lieux où ils s'inscrivent sont invivables. Et c'est évidemment le cas de cette région qu'on appelle vulgairement la Colima, mais qui est en réalité l'Oymyakon, ou plutôt la Yakoutie, et les conditions de vie sont insoutenables. Donc il fallait des gens pour exploiter les richesses minières de cette région, qui sont considérables. C'est parmi les plus grandes, les plus importantes ressources mondiales d'or, d'étain, d'uranium, de cobalt, les métaux les plus précieux au monde qui sont concentrés dans cette région, et il fallait les exploiter. C'est pour ça qu'on a construit cette route pour relier les différentes mines qui parcourent cette région. Et bien sûr, l'objectif aussi, c'était qu'une fois que les ZEC étaient libérés, eh bien, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. On essayait de les maintenir sur place et donc de créer comme ça des foyers de résidence, des villes qui ont été créées pour eux de toutes pièces, pour qu'ils restent sur place et que même une fois libres, ils continuent à exploiter les richesses dont on avait besoin.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste du goulag? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez filmé?
Il reste encore des baraquements, des camps, et certains sont restés vraiment en l'état. Mais il faut dire que la plupart ont été quand même détruits par les locaux, notamment cette peuplade qui habite sur place et qui s'appelle les Evenks, qui sont des éleveurs de rennes, qui ont une religion chamanique, un système matriarcal, hein, le chef de tribu est toujours une femme, et qui vit vraiment en retrait volontairement de toute civilisation. Donc à part eux, dans cette région, il n'y a personne. Et ceux qui ont peuplé cette région au cours des 60-70 dernières années, eh bien, ce sont les prisonniers, les ZEC et leurs héritiers. Sauf que évidemment, d'année en année, la région et les rares villes qui la jonchent se dépeuplent de manière très régulière, et à mon avis, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc même Magadan perd chaque année des centaines d'habitants sur quand même un petit quota de population à chaque fois.
Michael Prasant, aujourd'hui, quel est le rapport des Russes à cette histoire? Quelle est la mémoire du goulag en Russie?
C'est une question compliquée. C'est parce que le goulag a impacté, toute une population. Déjà, un nombre considérable de Russes, et pas seulement de Soviétiques au sens large, y sont passés. Et puis, le goulag employait des milliers, voire des millions de personnes. Donc c'est vraiment toute la population russe qui, d'une manière ou d'une autre, a croisé le fer avec cette histoire du goulag. Sauf que donc il y a eu un relance, il y a un regain de mémoire au moment de la chute de l'Union soviétique, où il y a eu la volonté d'en parler, de beaucoup en parler. Et puis, très rapidement, cette histoire a été comme effacée, elle a été oubliée. Parmi les jeunes générations, lorsque j'ai eu l'occasion d'en parler en Russie, eh bien, les jeunes ne connaissaient même pas, la plupart du temps, le mot même de goulag. Donc oui, il y a un affaissement considérable de la mémoire, bien que ces dernières années, des mémoriaux ont été construits, édifiés. Il y a aujourd'hui un musée national du goulag à Moscou. Mais enfin, c'est une mémoire qui disparaît.
Merci beaucoup, Michael Prasant, d'être venu nous parler de votre livre.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle, hein, c'est un livre important, ça s'appelle Varlam, c'est publié chez Rivage. Et pour nous aussi faire mémoire de ce qui s'est passé au Goulag pendant toutes ces années, je rappelle que nous commémorons les 70 ans de la disparition de Staline. Merci.
Et mon livre est sorti voilà, au moment de l'anniversaire de sa disparition.
Exactement. Merci beaucoup, Michael Prasant.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci, merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Merci bien sûr aux chroniqueurs François Hunin et Valérie Marniac. Merci à Pierre Samanos pour la réalisation. Et comme à chaque fois, on se quitte avec une citation. Allez, on remet un petit peu de... Ça, c'était un peu pesant là, je vous sens qu'il ça manque de légèreté. Une citation de Sarah Bernard. Mais en même temps, on peut faire le lien, vous allez voir. Il faut haïr très peu, car c'est très fatigant. Attribué à Sarah Bernard. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end.